Vous savez que chaque jour, un expert de marché vient déconstruire les idées reçues. Et aujourd'hui, notre résistant face au consensus, c'est Thibaut Prébé, l'auteur de « Démographie, la bombe tranquille », c'est aux éditions du Rocher. Il nous rejoint, stratégiste de marché, économiste. Bonjour Thibaut.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver. Dans une grosse semaine, SpaceX va s'introduire en bourse. Et c'est bien, c'est un bon moyen de booster encore le Nasdaq, ça. Enfin, en tout cas, c'est ce que certains pensent. Pas vous, vous dites bullshit. Vous foudroyez, Thibaut, cette idée que SpaceX sera un moteur de plus pour le Nasdaq.
Oui, absolument. Je pense que c'est peut-être même un peu la fin d'un cycle de bulles et que cette introduction de SpaceX est un bon point pour essayer de ramener tout le monde à la raison.
Qu'est-ce qui vous rend si prudent sur SpaceX, ramener tout le monde à la raison? Voilà, c'est quoi les points faibles, en gros, de cette introduction?
Le premier point, c'est que la valo est complètement débile. C'est-à-dire que le principe, quand même, d'un titre, c'est de gagner de l'argent dessus. Si on a une valo qui n'est même pas raisonnable à atteindre dans des scénarios hyper favorables, on voit pas comment on gagne de l'argent. Pour prendre un exemple, en comparant à la darling des marchés, qui est Nvidia, faut se rappeler qu'on parle d'une valo qui est 4 fois plus forte par rapport au chiffre d'affaires. Pour une société qui est déjà pas donnée, mais pourquoi elle est pas donnée? Parce qu'elle a des marges colossales. Et on parle de 50 milliards de résultats plus au dernier trimestre pour Nvidia contre 4 milliards de pertes pour SpaceX. Donc, on est déjà dans des comparaisons qui existent même pas. Et au-delà de ça, Nvidia a plus de croissance que SpaceX. Et donc, en fait, on comprend pas bien pourquoi il faudrait acheter une société qui a un risque technologique d'un secteur qui a des marges beaucoup plus faibles, beaucoup plus chères qu'une société qui, elle-même, est déjà le mieux sur tous les aspects. Donc, il n'y a aucun moyen en valorisation de justifier. Ce que disent les gens en général, c'est qu'on arrive, en étant optimiste, à justifier à peu près 1/10 de la valorisation actuelle. C'est grotesque.
1/10, ah oui, effectivement. Elon Musk, on aurait pu penser qu'il jouerait les repoussoirs, quoi. Il y a quelques mois encore, Elon Musk, personne voulait acheter de Tesla en Europe. Et puis on voit depuis quelques mois les ventes de Tesla rebondir ici en Europe et Elon Musk un peu moins faire polémique. Est-ce que pour SpaceX, ça c'est quand même une bonne nouvelle, le fait qu'Elon Musk soit un peu moins urticant?
Elon Musk, c'est une religion. C'est une religion, quoi que dise la star, personne ne conteste, c'est comme ça. Quand je viens ici parler économie, sans vouloir critiquer cette émission sur X, tout le monde s'en fout. Il suffit de critiquer une ou deux fois Elon Musk et on prend des tombeaux d'insultes. La réalité, c'est quand il dit qu'on va faire une colonie de 100 millions de personnes sur Mars, c'est complètement débile. Les scientifiques disent qu'il faudra entre 10 000 et 10 millions d'années pour que Mars puisse être habitable. Si vous y allez sans que ce soit habitable, vous faites une cloche, quoi. Mais si c'est une cloche, autant la faire sur la Terre. Et puis, qui aurait intérêt à aller partir sur Mars pour vivre sous une cloche? Donc, ça n'a aucun sens. Mais les gens y croient. Alors, c'est une stratégie de l'outrance. C'est comme si vous arrivez à
un endroit. Il y a bien des gens qui vont au Sutton Park le week-end. Ils vivent sous une cloche.
Ouais, c'est pas tout à fait la même chose quand le voyage dure déjà un an et que c'est pour rester. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est comme si vous avez un entretien d'embauche et vous dites, moi, je veux 1 million de bonus si je triple le chiffre d'affaires de la boîte. Les gens vont se dire, il est débile, mais peut-être quand même qu'il est confiant et qu'il est bon. Prenons l'exemple de Tesla. Ce qui est important quand on est outrancier, c'est d'être crédible. Je vous rappelle qu'en 2021, Musk dit, en 2030, on vendra 20 millions de Tesla par an. Au bout de 5 ans, on est à 1,6 million en décroissance et à prix cassé. Donc, on va même pas arriver au 10e des prévisions que donnait Elon Musk. Et malgré ça, on repart sur un nouveau round. Donc là, on est dans la religion. Voilà, sur les marchés en général, si vous faites le 10e de ce que vous avez dit, vous passez dans les poubelles de l'histoire financière et plus personne ne vous écoute. Là, on est à l'inverse. Donc, je pense qu'il y a une forme, encore une fois, de croyance sur Elon Musk qui sert à justifier n'importe quel valo. En général, ça finit mal.
Julien.
Après, on raisonne à l'instant T. Si on regarde l'exemple de Tesla, vous avez raison sur les 5 dernières années. N'empêche que Tesla, quand ça s'introduit en bourse en 2010, ça vaut 2 milliards de dollars. Aujourd'hui, ça en vaut 1 400. Le chiffre d'affaires de Tesla sur l'année 2010, c'est 90 millions de dollars. C'est 90 milliards de dollars actuellement. Il a quand même multiplié par 100 son pari dans l'électrique, personne n'y croyait. Donc on peut penser que cette espèce de culte de cette secte, si je me mets les guillemets, les gens y croient pour une certaine raison, et que quand le marché y croit, c'est difficile d'aller contre lui. Par ailleurs,
vous défendez Tesla.
Non,
d'habitude, vous assassinez Tesla.
Non,
aujourd'hui, vraiment, je suis surpris là.
Le principe du bullshitomètre, c'est d'avoir des gens qui prennent le contre-pied.
Oui. Et le contre-pied de soi-même. Vous défendez Tesla. Là.
Oui, juste la première fois. Et demain, je brûlerai Tesla. Qu'importe. C'est juste un point à souligner. Okay. Et il faut quand même aussi dire une chose, c'est que là, vous parlez si on parle de SpaceX au début, vous avez des banques conseils qui vont acheter l'action. Vous avez tout, et qui m'ont soutenu aussi dans les premiers jours. L'action va arriver dans les ETF. SpaceX qui s'effondre lors des premiers jours.
En fait, mais justement, c'est pour ça que pour moi, c'est un vrai changement. Déjà, la première chose par rapport à ce que vous disiez, je vais prendre à votre jeu, vous me dites, Musk a fait un truc super, tout le monde est d'accord. Pas que, hein. Mais, on introduirait demain SpaceX à 80 milliards de dollars, à 150 milliards de dollars. Ce serait le même narratif, ce serait quelqu'un qui a réussi des choses avant et qui lève des fonds. Le problème là, c'est pas que SpaceX ait un potentiel, c'est pas que Starlink soit une réussite et que ça vaille de l'argent. C'est 1850 milliards. On est dans un truc qui n'a aucun sens, donc c'est de la religion. Alors, là où ça peut péter, c'est qu'effectivement, on a des ETF qui vont devoir mettre un des plus gros poils d'histoire pour une intro très vite dans le Nasdaq, parce que comme ce sera une des 40 plus grosses capitalisations, ils vont pouvoir rentrer très rapidement. Mais, une fois que ce sera fait, avec des ETF qui peuvent y laisser des plumes pour essayer de répliquer la performance d'un indice qui est très difficile dans un marché illiquide, on a des gens qui ont des clauses de sortie beaucoup plus tôt que d'habitude. Des lock-up beaucoup plus tôt, sauf d'ailleurs pour Musk. Et comme la valorisation est complètement débile pour tous les gens qu'on a déjà, on peut avoir un intérêt quand même assez fort à sortir. Donc on peut très bien avoir une envolée. Justement, les gens un peu crédibles, on a l'histoire de GameStop, tout ça qui est un peu dans le côté de masse, qui après se font rincer. Et là, ça peut permettre de se poser la question de est-ce qu'on n'est pas parti dans une bulle ? Et pour tous les suivants qui vont s'introduire sur des valos complètement débiles, ça peut être un problème. Donc je rejoins ce que vous dites, c'est-à-dire que je ne crois pas qu'il puisse y avoir un effondrement les premiers jours. En revanche, je pense qu'il va y avoir une douche derrière qui va calmer un peu ce marché qui est parti dans quelque chose d'un peu hystérique. Et je pense que cette idée du Messimus, c'est sympathique, mais ça fait déjà 10 ans que c'est cramé comme histoire. On a tous vu comme il a vrillé, on a vu les insultes avec Donald Trump. Je vous rappelle aussi que, par exemple, quand il décide d'acheter Twitter, la veille de l'annonce, son frère vend toutes ses actions, ça passe nickel. Hein. Tous les financiers français sauraient qu'il serait déjà en prison 2 jours après.
Bah oui, donc, mais il est aux États-Unis.
Voilà, il y a un truc assez improbable. Ouais. Moi, je pense que c'est une histoire qui va probablement mal se finir et ça fera du bien, parce qu'il faut rester un peu cohérent. Acheter une société à un prix que personne n'arrive à justifier, et que personne n'arrive à justifier 2 fois, 4 fois ou 5 fois moins, ça n'a pas de sens, mais c'est le symptôme de l'époque.
Et si, dans le sens où 80% de la valorisation de SpaceX, alors d'accord, il y a les fusées, et là, je me demande comment on peut valoriser un tel niveau de bénéfice, même s'ils récupèrent les fusées à chaque fois, comment on peut valoriser une société autant, alors qu'elle crame autant de cash. Mais parallèlement, il y a l'intelligence artificielle, et c'est 80% de l'activité de SpaceX quasiment. Donc là, on entre dans une deuxième secte. Il y a la secte Musk et il y a la secte de ceux qui pricent ça n'importe comment. Donc ça...
Ouais, mais soyons cohérents. Là, pour le coup, on a des comparables. Aujourd'hui, tout le monde vous dit que Grok, c'est à la ramasse par rapport à Anthropic, qui envisage 1000 milliards. Donc, si vous dites que toute la valeur, c'est l'IA, bah, vous pouvez pas justifier de valoriser ça quasiment le double d'Anthropic. Donc, cher, de toute manière, valo débile pour valo débile en comparant à d'autres valo débiles, c'est encore trop cher. Donc, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la vraie valeur fondamentale de ce groupe, c'est Starlink, hein, c'est la seule activité qui est rentable, qui gagne de l'argent, etc. C'est une activité qui a généré tous les bénéfices d'il y a 2 ans avant qu'on commence à cramer avec la partie IA et SpaceX. Aujourd'hui, c'est impossible de justifier ça, mais pour autant, quand c'est déjà trop cher par rapport à des pairs qui sont eux-mêmes trop chers, il y a un moment où il faut commencer à se détendre.
Oui, non. Et vous souhaiteriez presque l'échec. Donc, non, mais c'est un peu ça, pour ramener le marché à une forme de raison.
Pas l'échec.
Pas pour que les gens soient rincés, mais voilà.
C'est juste éviter que les gens perdent trop d'argent.
On se met à l'endroit, quoi. Que les gens perdent trop. Oui, c'est ça. Il ne faudrait pas que ça monte trop vite, trop tôt. Il faudrait très vite que ça baisse.
Bah oui, parce que c'est toujours les mêmes qui gagnent, les mêmes qui se font avoir. Donc, si on peut éviter d'aller faire n'importe quoi, c'est mieux.
Un homme averti en vaut deux.
Juste un point de précision, quand on dit que SpaceX fait des pertes, alors le 4 milliards que vous donnez est tout à fait juste, il faut voir que sur les 4 milliards, vous avez 6 milliards de pertes, en fait, qui viennent d'XAI. Vous enlevez XAI, SpaceX est rentable, parce que vous avez 300 millions de pertes sur SpaceX, à proprement parler, et effectivement, 2 milliards de bénéfices, un peu plus sur...
Attention quand même, parce que l'année dernière, ça perd 4 milliards 5, sur le T1, ça a déjà perdu 4 milliards 5. Donc on est en plus pas forcément en ralentissement des pertes, quoi.
Vous restez avec nous, Thibaut, ça vous dit ?
Avec plaisir.
D'entrer dans cette dernière demi-heure de cotation, il reste quoi ? Une demi-heure, allez, jusqu'à la clôture des marchés, on va entrer, on va vivre cette dernière ligne droite.